Les balados au IC, un projet de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain, en collaboration avec Figura, le centre de recherche sur le texte et l'imaginaire, vous propose aujourd'hui un épisode de la série d'entretien Pop en stock.
Chers auditeurs et auditrices, popophiles, popophages, popologues de tout poil, donc bienvenue à cette nouvelle émission du podcast Pop en stock. Nous avons l'immense plaisir et honneur de recevoir aujourd'hui Lorik Guillot, qui est un des grands pionniers de l'étude de plusieurs pans de la culture populaire du 19e et du 20e jusqu'au 21e siècle. Donc, merci beaucoup, Lorik Guillot, d'avoir accepté cette invitation. En fait, il y a plusieurs pans, c'est une grande œuvre que vous avez accomplie et que vous continuez à faire progresser. Vous êtes connu par vos études sur l'imaginaire des mondes perdus, des Atlantides, mais vous êtes aussi connu par les imaginaires d'un monde trouvé qui est l'Amérique, le Nouveau Monde, et vous êtes aussi connu par vos travaux qui font le lien entre l'histoire des littératures de l'imaginaire et des formes de la pensée ésotérique depuis les Lumières, l'illuminisme des Lumières jusqu'à des best-sellers du polar ésotérique plus récent. Et donc, si vous le voulez bien, nous allons peut-être procéder un peu par ces grands ensembles, ces blocs thématiques qui vont nous guider un peu dans la grande étendue de vos travaux. Et qu'est-ce qui, initialement, a motivé votre intérêt pour ces sujets, pour la culture populaire au sens large? Est-ce que c'est quelque chose qui remonte à vos lectures d'enfance? Culture populaire, donc, vous avez écrit notamment sur Rider Haggard et Lovecraft, des figures comme ça.
Tout a commencé quand j'avais 13 ans, quand mon grand-père m'a donné deux livres qui ont guidé pratiquement toute ma vie. Donc, je porte en moi ces deux ouvrages qui ont structuré pratiquement ma pensée et qui l'ont fait évoluer vers d'autres thématiques. Mais fondamentalement, ces deux ouvrages sont le Voyage au centre de la Terre de Jules Verne et Le monde perdu de Conan Doyle. Et donc, le virus, si j'ose employer ce mot aujourd'hui, a été communiqué très tôt par mon grand-père.
Donc, votre grand-père était intéressé par le thème des mondes perdus?
C'était un grand érudit, mais non, je ne pense pas. Il aimait beaucoup Conan Doyle. Je crois que j'ai lu à peu près toute l'œuvre policière et d'aventure de Conan Doyle entre 13 et 14 ans. Ça a commencé par là. Et puis, c'est toujours pareil. On commence avec un livre de Jules Verne et puis on lit les autres aussi. Donc, voilà, ça a formé, évidemment, pratiquement toute. C'était ma formation initiale. Curieusement, c'est à l'âge de 32 ans, lorsque j'étais en. J'ai envisagé de faire de la recherche universitaire, que j'ai eu l'idée d'utiliser cette thématique de manière académique. C'est comme ça que j'ai fait ma première thèse sur le monde perdu de Conan Doyle et 8-9 ans après que j'ai fait une thèse d'état sur le thème du monde perdu dans la littérature. Ça a été, disons, mon fil d'Ariane pendant des années, mais à partir de là, comme... En tant qu'universitaire, je faisais partie d'un groupe de recherche qui s'appelle le CERLI, C-E-R-L-I, fondé par Maurice Lévy. Donc, j'ai connu d'autres collègues qui sont souvent restés des amis et avec lesquels j'ai beaucoup collaboré ces dernières décennies. Et donc, à partir de là, nos réunions étaient plutôt basées sur le fantastique.
Oui,
donc,
c'est le Centre de recherche des littératures de l'imaginaire.
De l'imaginaire, c'est ça.
Donc, un travail absolument pionnier de la part de Maurice Lévy, spécialiste de Lovecraft.
Absolument. L'autre nom, c'est Cerisy. Le centre de Cerisy-Lassalle J'ai fait sa connaissance il y a maintenant 25 ans, à peu près, 25-30 ans. À partir de là, mon groupe a proposé des thématiques qui ont été pratiquement annuelles et qui se sont étalées sur 20-25 ans. Et on a essayé de couvrir à peu près à Cerisy tous les secteurs de l'imaginaire.
Oui, absolument. Cerisy qui avait eu déjà une rencontre pionnière autour des paralittératures, la question des paralittératures, avec un volume qui avait fait date à l'époque de Francis Lacassin, etc.
Exactement.
Et qui, c'est vrai, grâce à votre groupe, a continué à s'intéresser à toutes ces littératures-là. On connaît beaucoup Cerisy à cause des grands colloques sur les grandes figures, Artaud, etc., etc. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir que parallèlement, il y a toujours eu, donc, grâce à vous, cet intérêt qui a donné lieu d'ailleurs à des publications tout à fait précieuses. Et donc, oui, pour revenir, donc, votre thèse d'État, qui, faut-il le rappeler, était un travail colossal parce que la thèse d'État s'est allée presque sur une décennie. L'exercice a disparu comme tel et on peut considérer que c'est quelque part dommage parce que ça a donné lieu à des grandes publications, à des grandes carrières. Donc, c'est une œuvre colossale que vous avez faite sous le thème, donc le thème du monde perdu dans la littérature de langue anglaise, et vous aviez choisi deux dates, 1864-1933. Alors c'est vraiment très très, c'est très précis, et en même temps c'est presque un siècle d'une quantité effarante. Vous citez des centaines d'ouvrages des mondes perdus. Comment en êtes-vous venu à délimiter aussi précisément donc cette thématique?
C'est simple, 1864, c'est Voyage au centre de la Terre, donc il est clair que Jules Verne a été un pionnier dans la thématique des mondes souterrains, de ce qu'on appelle la Terre creuse. Le monde perdu, faut-il le rappeler, se subdivise en plusieurs sous-thèmes, les deux plus connus étant justement la Terre creuse et l'autre, disons, les mondes préservés, avec des faunes de type préhistorique. Le thème étant plus anglo-saxon que français, le terme « monde perdu » n'est pas très explicite en français. Les Anglais font une différence entre « lost race fiction » et « lost world fiction ». Enfin, bon, ça, c'est vraiment une querelle d'experts. Hein, « lost race », les romans de races perdues, de civilisations perdues, de peuples perdus. Alors là, c'est certainement le sous-thème qui a occasionné le plus de parutions. Et puis un thème aussi très, très, très populaire grâce à Jules Verne. Jules Verne a été apparemment le premier à imaginer une faune de type préhistorique sous terre. À partir de là, il a eu quantité d'imitateurs, surtout aux États-Unis. Il a été pillé. Et c'est sans doute grâce à Jules Verne que le thème de la Terre creuse est devenu si populaire aux États-Unis. Voilà, si vous voulez, l'orientation initiale de mon travail.
Qui venait de votre lecture. Verne fait déjà la synthèse d'une tradition qu'il transforme un peu, puisque au 18e, etc., il y avait l'Amicus, il y avait les voyages souterrains, des choses comme ça. Mais c'est vrai que peut-être qu'on peut dire qu'avec Verne, il y a un infléchissement aussi vers un type de fiction qui est un peu différent des voyages souterrains précédents.
C'est un thème qui suit de très très près l'essor des voyages. Donc, que vous citez est tout à fait juste. Hein. Tout commence par ce qu'on appelle les voyages extraordinaires qui pratiquement se greffe sur les premières conquêtes de type colonial, hein, faut bien le dire. C'est au 18e, en effet, que commencent ces voyages imaginaires qui ont une base, disons, réaliste, géographique et historique, mais évidemment, beaucoup d'auteurs, en fin de compte, projettent sur ces terres réelles des mondes totalement fictifs. Ça a été en effet la première vague qui a précédé celle des mondes perdus. Mais les mondes perdus, et tout de même, c'était une sorte de rationalisation des voyages extraordinaires dans un sens scientifique. Il n'y aurait sans doute pas les mondes perdus sans ce qu'on appelle l'essor des nouvelles sciences. les nouvelles sciences, les deux plus connues étant évidemment la paléontologie, d'où sortira bien sûr la thématique des mondes préservés, et puis bien sûr l'archéologie. Ça serait plutôt les romans dits de races perdues, même si le terme n'a pas grand sens en français.
Oui, et 1933, est-ce Lovecraft alors, non?
J'ai eu pas mal de, pas de polémiques, mais disons de discussions très serrées, notamment à Cerisy, avec des gens qui n'étaient pas d'accord justement avec cette date. C'est très très difficile de circonscrire un phénomène littéraire de manière définitive. Il fallait bien de toute façon que je m'arrête à un moment ou à un autre.
Oui.
Il est exact en effet que le thème du monde perdu se poursuit après 1933. Mais j'ai choisi 1933 parce que c'est un moment historique, disons, marquant sur le plan des grandes catastrophes. Hein. C'est l'arrivée des totalitarismes, etc. Et cet essor des totalitarismes dans les années 20 et 30 accompagne une certaine forme de fantasticité des mondes perdus qui est très intéressante. Moi, ce qui m'a intéressé dans ce travail, c'est de montrer que le thème du monde perdu évolue. Il évolue du rationnel vers l'irrationnel. Ce qui était très intéressant, si on étudiait le monde contemporain, c'est de voir que le fantastique échevelé, avec le début de l'heroic fantasy, etc., correspondait aussi à la levée des totalitarismes en Italie, en Allemagne et ailleurs. Donc, ça me semblait intéressant de les mettre en perspective.
Vous allez revenir plus tard sur Lovecraft et les mondes perdus, mais ce qui est très intéressant aussi, c'est que justement, avec ce tournant, le monde perdu commence à aller soit dans le sens de la fantasy, ou tout simplement le cadre du monde perdu disparaît, l'idée qu'on découvre une civilisation et on plonge directement, c'est ce que fait Howard avec le roi Kull d'Atlantide, puis voilà, avec Conan. Et dans un autre sens, les mondes perdus se projettent dans l'espace, dans les planètes imaginées par Edgar Rice Burroughs, etc. Peut-être qu'on peut dire qu'effectivement, il y a là, de la même manière que Verne, comme vous venez de dire, crée vraiment un nouveau tournant positiviste, etc. Là, du coup, on est passé dans ce que vous appelez dans votre publication, votre première publication issue de cette thèse, l'aventure mystérieuse. Donc le titre.
Absolument. Une aventure mystérieuse qui devient de moins en moins mystérieuse au fur et à mesure des expéditions réelles. Hein. Parce que, faut bien le dire, le monde, comme disait Pringle, n'est plus géographiquement ouvert au XXe siècle. L'histoire des mondes perdus est liée évidemment à un monde qui était encore accessible par ces découvertes extraordinaires. Tout ce qui est aventure était lié à une véritable aventure qui était l'aventure géographique et coloniale. Voilà, il arrivait un moment où on avait pratiquement, grâce notamment aux avions, la conquête de l'air, disons, a raréfié évidemment les zones qui restaient encore à découvrir. Le monde perdu est forcément nostalgique, surtout dans sa dernière phase, vu qu'il parle d'un monde qui est de plus en plus connu.
Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que Lovecraft et d'autres sont obligés de se retrancher carrément sur le dernier espace blanc, c'est l'Antarctide. Donc là, vraiment.
L'Antarctique, exactement.
Mais là, on est obligé vraiment d'aller chercher très, très loin. Donc l'aventure.
Bien sûr, les terres creuses.
Plonger au fond de la terre ou au fond de l'inconnu, comme disait Baudelaire. L'aventure mystérieuse de Poe à Merritt ou l'orphelin de Gilgamesh paraît donc en 1983. Moi, c'est comme ça que j'ai connu votre travail. C'est un ouvrage absolument magistral. Je pense que c'est vraiment un condensé d'une partie de la thèse, non, que je n'ai pas eu la chance.
Absolument.
Je pense qu'il y a un seul exemplaire, il y a deux exemplaires, je crois, un microfilmé et un autre à l'Université de Nîmes, il me semble. Donc, dans l'aventure mystérieuse, justement, vous faites comme à l'intérieur de l'immense territoire couvert par la thèse, vous faites une sorte de coupe sur ce tournant-là, qui est celui où on bascule de plus en plus dans l'imaginaire, avec cette figure majeure de Abraham Merritt, qui va beaucoup marquer d'ailleurs Lovecraft, mais aussi Howard et les pulps en général. Et ce sont ce que vous appelez donc de la belle formule les orphelins de Gilgamesh, en rappel de la grande figure du premier texte de fiction que l'on connaisse, et où tout à coup, il s'est aussi recentré un peu sur le domaine dans les deux choix de Poe et d'Abraham Merritt. Il y a une spécificité un peu nord-américaine déjà qui se dégage, non?
C'est vrai. Les auteurs que vous citez sont américains. Et on voit bien que les auteurs nord-américains, ça commence, disons, dans les années 1920, commencent à introduire dans la thématique, disons, plus traditionnelle des mondes perdus, des éléments nouveaux. Ces deux éléments nouveaux, c'est l'érotisme, la violence et le fantastique, avec un côté mythologique très, très prononcé, notamment chez Merritt. Merritt, en quatre romans, là, pratiquement, il révolutionne le genre, le projette vers ce que les Américains appellent la fantasy.
Oui, en fait, la tradition américaine de la fantasy, on peut dire, par opposition à Tolkien, on peut dire qu'elle est vraiment très ancrée dans ses fabulations sur les continents perdus, etc., qui vont continuer à vous intéresser durablement. En 2000, vous prenez une autre figure qui a été souvent étudié, mais pas sous cet angle-là. C'est donc King Kong ou la revanche des mondes perdus. Et effectivement, on oublie parfois que le socle de King Kong, c'est l'univers du monde perdu. De fait, la version cinématographique du roman de Conan Doyle s'est fait pratiquement en parallèle. Et le travail, disons un peu ethnographique des réalisateurs préalables, était une sorte de quête de monde perdu, puisque ça s'est traduit aussi dans la réalité avec la recherche de la ville de Z, etc. Enfin, il y a eu dans les années 20 un grand engouement aussi du côté de l'archéologie et de l'anthropologie pour retrouver des mondes perdus. Et c'est vraiment le point d'origine de King Kong, selon votre analyse.
Oui, absolument. Ça me semble tout à fait emblématiser la fin, en tout cas, la grande transformation de la thématique. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'avais sous-titré mon petit bouquin sur King Kong, « La revanche des mondes perdus ». D'une certaine façon, le grand singe se venge de la civilisation. C'est assez intéressant de voir que de 1864 à, grosso modo, jusqu'à la fin du 19e, les romans de mondes perdus se terminent le plus souvent par la destruction du monde qui est découvert, dont les explorateurs mettent le monde découvert à découvert, oui. Et donc il est fragilisé et souvent il disparaît pour des raisons qui sont dues aux explorateurs ou quelquefois pour des catastrophes dites naturelles. Mais en tout cas, c'est très clair que petit à petit, les mondes perdus vont s'émanciper. Et on va montrer petit à petit, c'est assez intéressant d'ailleurs d'un point de vue idéologique, parce que vers 1900-1910, là on observe des mouvements de décolonisation. Ça correspond aussi à un moment où des peuples commencent à fourbir leurs armes contre les vilains explorateurs occidentaux. Une sorte de renversement du thème est pressenti. Et donc, il va s'affirmer, comme vous le disiez, dans les années 1920-1930 avec les auteurs que vous avez cités. La bande à Lovecraft, si j'ose dire.
1933, c'est aussi la date de King Kong. Donc, c'est une date
qui... Oui. C'est pour ça que j'ai choisi. Hein. Il n'y a pas de miracle. Hein. 1933, c'est King Kong. Bon, j'aurais pu prendre 1932 ou 1935. Hein. Mais je ne vois pas un ouvrage intéressant, disons, après 1933 dans cette thématique. Et c'est assez intéressant de terminer. Je voulais terminer aussi ma recherche sur quelque chose qui échappait au romanesque vers ce qui a triomphé dans les décennies qui ont suivi jusqu'à maintenant, c'est-à-dire le régime de l'image qui va triompher via le cinéma. Donc, le thème du monde perdu va disparaître petit à petit, va s'éclipser, si j'ose dire, du domaine littéraire pour rentrer dans le domaine cinématographique, dans le domaine iconographique avec la bande dessinée, etc. Donc ça, c'est un autre monde qui nécessiterait une autre thèse, sans doute. Mais c'était, je terminais sur, disons, un nouveau monde qui s'ouvrait dans le domaine de l'imaginaire.
Oui, tout à fait, les survies et mutations, évidemment, jusqu'à Jurassic Park, la franchise, etc., etc. En fait, quelque part, ce qui est assez curieux, c'est que on est encore hanté par le souvenir des mondes perdus et on y revient assez régulièrement dans nos imaginaires, à la fois par les adaptations des grandes figures, etc., et le retour de King Kong, du monde perdu, de les mines du roi Salomon, etc., mais en même temps aussi par tout simplement cette idée qui est un mythe que vous avez bien étudié d'ailleurs dans votre ouvrage paru l'année d'après, L'éternel déluge, donc paru en 2001, où vous vous intéressez directement au grand mythe de l'Atlantide.
Ça, c'est un autre sous-thème intéressant des mondes perdus, ce qu'on pourrait appeler aussi les continents perdus. Alors, l'Atlantide, évidemment, est assez intéressant. Mais c'est un thème fabuleux dans tous les sens du terme, mais curieusement, qui n'a pas produit de chef-d'œuvre, ni sur le plan de la fiction, ni sur le plan cinématographique. Il y a eu quelques bons films, mais honnêtement, c'est plutôt un mythe qui continue à fonctionner, mais on ne peut pas dire qu'il y a eu de grands artistes qui ont commis des œuvres inspirées de l'Atlantide. Parce que hormis franchement Pierre Benoît, et encore ça me paraît un peu illisible aujourd'hui, et puis peut-être sur le plan du cinéma, peut-être le film de Pabst. C'est assez décevant.
C'est tombé beaucoup dans le kitsch et curieusement, voilà, alors que voilà, des fois le péplum a réussi à devenir fantastique, mais on dirait que le thème de l'Atlantide, il y a un côté à la fois affranchi de référents, disons, historiques, comme peut l'être l'histoire de Rome, de Grèce, etc., et en même temps tellement nourri de strates d'imaginaire qu'on dirait qu'il est difficile de proposer des Atlantides réellement intéressantes. Mais peut-être que, et c'est là aussi où vous touchez à un domaine qui va beaucoup vous intéresser, ce qui est assez curieux avec l'Atlantide, c'est que peut-être ça a été moins intéressant du côté des fictions que du côté des pseudo-fictions, de la fausse non-fiction, comme diraient les Américains, c'est-à-dire les atlantologues de tout acabit qui, depuis le 19e siècle et avant encore, se sont efforcés à imaginer. Je pense que l'imaginaire de l'Atlantide le plus intéressant est souvent dans ces textes de gens qui affirment, encore jusqu'à aujourd'hui, l'existence de l'Atlantide et qui essayent de trouver. Donc, on est dans des sortes de fictions de l'archéologie, justement, avec, après tout ce que la théosophie a fait autour de l'Atlantide, le mythe des races primordiales, originaires, etc., etc. On dirait que ça a été plus intéressant et que la fiction est venue toujours un peu après. Peut-être parce que c'est un mythe à l'origine philosophique avec Platon, mais on dirait que c'est beaucoup la reconstruction qui, après, a alimenté l'imaginaire des écrivains, mais ils n'ont pas tellement plus apporté que ces textes-là. Enfin, c'est une impression.
Je suis d'accord. Je continue à faire quelques cours sur l'Atlantide dans un cadre autre que l'université. Les gens, tout de même, ça les intéresse. Parce qu'on s'étonne toujours que le plus vieux mythe, hein, c'est pratiquement le plus vieux mythe de l'histoire, continue de fonctionner, mais pas simplement dans la fiction, assez peu d'ailleurs, mais curieusement, chez les scientifiques. J'ai organisé à Cerisy un colloque il y a une dizaine d'années sur l'Atlantide avec Chantal Foucrier. Et on avait invité des archéologues, notamment Jacques Collina-Girard, qui venait de sortir un bouquin très très sérieux sur l'emplacement hypothétique de l'Atlantide en Méditerranée. Et c'était très très bien exposé. Ça continue de fonctionner. Moi, ma plus grande étonnement, c'est que ce sont les scientifiques qui entretiennent le mythe de l'Atlantide.
Oui, parce que c'est le mystère de Platon, dans le sens que il y a toujours le mythe des origines, mais il y a toujours l'idée de il n'y a pas de fumée sans feu, et que si cette tradition a été préservée, c'est que quelque chose a dû se passer. Et au fond, c'est aussi un peu le complexe de Troie, c'est-à-dire que effectivement, comme on a pu trouver Troie, il n'est pas exclu qu'on puisse trouver d'autres vestiges de lieux qu'on pouvait considérer fictionnels. Et vous avez consacré d'ailleurs, en collaboration avec Jean-Pierre Deloup, toute une encyclopédie. Et donc Atlantide et autres civilisations perdues de A à Z, où effectivement il y a des centaines de références, alors autant dans le domaine de la fiction que dans le domaine de cette sorte de branche étrange qu'est de l'archéologie, peut-être, qu'est l'atlantologie, que vous analysez par ailleurs dans L'éternel déluge de manière plus mythocritique, si l'on peut dire.
Ah oui, c'est un excellent moteur à rêver d'autres emplacements selon les savants, et puis à rêver d'autres fantasmes ou des lieux fantasmatiques. Hein. Il y avait une différence essentielle entre les mondes perdus du départ et l'Atlantide, c'est que souvent l'Atlantide était liée à la femme. Je crois que, en fin de compte, le grand inspirateur, c'est Rider Haggard avec She, hein, le mythe elle, hein, la grande reine africaine qui, en fin de compte, est l'ancêtre d'Antinéa, l'anagramme de anéanti.
Ah oui, ça c'est vrai.
C'est la femme qui annihile ses amants. Donc là, c'est une nouveauté thématique. Et petit à petit, d'ailleurs, je vous le disais, hein, petit à petit, d'une manière discrète, hein, parce que les sociétés sont encore un petit peu puritaines, la femme va petit à petit investir la fiction, et notamment, évidemment, la femme fatale.
Oui, c'est le grand mythe fin de siècle qui se retrouve. Et au fond, on peut dire, avec l'Atlantide, on n'est pas exactement dans la même chronologie que les mondes perdus, puisque, au fond, l'Atlantide renaît de ses cendres sans arrêt, notamment dans la grande collection des années 70, L'Aventure mystérieuse, justement, qui s'appelait comme ça dans la collection.
Ah ben oui, ouais, c'est sûr. C'est la sous-thématique qui est la plus proche de l'occultisme, des croyances, parascience, du spiritisme, etc. Donc, c'est très clair, hein, l'Atlantide, comme vous le disiez, ça commence à la fin du 19e, hein, elle a été utilisée par les théosophes, Madame Blavatsky, etc., ou Steiner, etc. Donc, disons, c'est un thème, hein, ils sont à manier avec des pincettes, parce que ça peut entraîner n'importe où, je veux dire. Et les ouvrages auxquels vous vous référez, alors là, ce ne sont pas des ouvrages de monde perdu, hein, c'est des ouvrages souvent d'auteurs perdus.
C'est d'ailleurs un domaine qui est assez fascinant, comment les fictions sont à la fois nourries par ces pseudosciences et à la fois comment ces fictions reviennent aux pseudosciences. Et il y a comme ça un dialogue continuel. D'ailleurs, il y a aussi là-dedans beaucoup de canulars, il y a aussi là-dedans beaucoup d'écrivains de fiction, voire de science-fiction, qui ont un double chapeau ésotérique ou ésotériste. Et donc, il y a un beau dialogue. Et peut-être que c'est l'Atlantide qui est resté le mythe le plus visible des continents perdus encore de nos jours. Et cette thématique, d'ailleurs, revient dans un autre ouvrage que vous avez écrit avec Jean-Paul Debnin, donc « L'imaginaire face au nazisme, le cauchemar de fer », où vous vous intéressez, au fond, à cet imaginaire qui arrive aussi dans l'aventure mystérieuse et dans le matin des magiciens, cet imaginaire des sources occultes du national-socialisme et notamment cet intérêt pour l'atlantisme, etc. Et donc, Le cauchemar de fer est une référence, le sous-titre est une référence au célèbre roman de science-fiction de Norman Spielrad, qui imagine que Hitler ne serait même pas devenu Hitler, au sens le Führer.
C'est pas facile de parler de ce sujet pour les raisons que vous imaginez. La seule incursion que j'ai faite, hein, dans la production livresse, c'était simplement une sorte de recueil d'articles, hein, que j'avais écrit.
Mais c'est très intéressant parce qu'il y a eu tout un renouveau. Effectivement, au début, c'est plutôt le matin des magiciens et on était dans cette sorte d'obsession. Mais après, il y a eu beaucoup d'auteurs, depuis les années 90, qui se sont plongés dans l'histoire de l'arianosophie, etc.
Ouais, etc. Se sont plongés et qui se sont noyés. C'est très très difficile. C'est ce que je fais aussi un cours sur ce que j'appelle le pseudo-ésotérisme nazi. Et croyez-moi, ce n'est pas facile parce qu'il faut faire, comment dire, le distinguo entre ce qui est historique et ce qui est totalement pseudo-historique, sinon pseudo-hystérique.
Oui, donc, une mythologie en fait. Il s'est créé une sorte de mythologie.
Oui, oui. Alors bon, faut pas oublier tout de même. Moi, mon seul fil d'Ariane hein, dans tout ce que j'ai fait depuis 40 ans, c'est l'imaginaire. Or, pour moi, l'imaginaire fonctionne bien sûr au niveau littéraire, mais il y a aussi un imaginaire de l'histoire. Ça, c'est plus difficile. Je suis pas historien, bien sûr. Mais enfin, bon, moi qui me suis intéressé à l'Amérique, l'histoire de l'Amérique, bon, c'est très clair qu'on ne peut pas faire, à mon avis, une histoire de l'Amérique du Nord sans se référer à ces mythes. Je crois que derrière ce qu'on appelle l'ésotérisme nazi, d'ailleurs, j'aime pas du tout cette appellation, il y a des choses tout à fait intéressantes, des pressentiments, je pense à des textes de Jung, hein, qui écrit des choses tout à fait intéressantes avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Il y a tout un contexte mythique, hein, qu'on appelle le folk, le folkish, qui petit à petit va imprégner la société allemande. Bon, alors là, je glisse du côté de la sociologie ou de l'anthropologie.
Oui, oui. Non, c'est ce qui avait intéressé le collège de sociologie, Bataille, Kaiowa, etc., dans le tournant de l'irrationnel qu'ils étaient en train de constater dans les années 30, le retour des mythes à l'état sauvage ou féral, et comment ça a été manipulé, évidemment.
C'est oui, ça, oui. Le problème, c'est justement la manipulation des mythes. Je veux dire, les mythes, il y en a dans toutes les cultures, mais là, on peut dire, bon, il y a eu des phénomènes sociologiques tout à fait clairs, hein, que même les historiens acceptent, mais il y a eu aussi, à travers des magazines populaires, à travers la science-fiction, une science-fiction tout à fait particulière, hein, qui triomphe dans les années 20 et 30 en Allemagne, une sorte de bric-à-brac monstrueux où on retrouve justement l'Atlantide, mais avec une Atlantide matinée de totalitarisme, avec des héros blonds scandinaves qui chassent les vilains juifs, hein, parce que
oui, l'antisémitisme.
Il faut lire ces choses invraisemblables.
Oui, oui, complètement délirant. En fait, mais c'est curieux parce que c'est quelque part le fil d'Ariane de l'Atlantide qui vous a mené vers ces récupérations. Vous consacrez aussi un ouvrage à Rider Haggard lui-même, donc des mines du roi Salomon à la quête du Graal.
Tous les mythes m'intéressent. Hein. Ces dernières années, j'ai beaucoup travaillé avec Georges Bertin, qui est, à mon avis, le meilleur spécialiste français des études médiévales, du Graal, de la chevalerie. Et donc, j'ai découvert qu'en fin de compte, il y avait, disons, l'imaginaire, c'est avant tout une histoire de carrefour. Ce qui est intéressant, et d'ailleurs, il y a de quoi s'y perdre, c'est le moment de le dire, c'est que il n'y a que des contaminations dans l'imaginaire. C'est-à-dire, il n'y a pas un imaginaire précis. Il suffit d'étudier un imaginaire pour se rendre compte qu'il est déjà influencé, imprégné, contaminé par d'autres formes d'imaginaire. Et on arrive à un moment qui est difficile aujourd'hui, où il y a un télescopage généralisé d'imaginaire qui fonctionne plutôt de manière négative. Et c'est un peu aussi ce qui se passe d'ailleurs dans les années 30. Et j'ai découvert que, en me replongeant dans Rider Haggard, que lui-même, disons, sciemment, inconsciemment peut-être, disons, était habité par les grands mythes, notamment les mythes médiévaux, etc., et qu'on trouvait la recherche du Graal dans sa fiction.
C'est une œuvre extrêmement variée, qui va de romans historiques dans des univers historiques très, très variés, jusqu'à cette sorte de cycle que vous évoquiez tantôt autour de elle qui doit être obéie et le cycle qui se recoupe avec le cycle de Alan Quatermain. etc. Une figure que d'ailleurs tous les écrivains de pulp, d'une manière ou d'une autre, ont sinon revendiqué, soit un peu pillé, soit rendu hommage, etc. Howard était un grand lecteur, Rice Burroughs aussi, et on peut dire que quelque part, c'est le grand ancêtre de tout l'imaginaire pulp et au fond de l'imaginaire populaire qui va en être issu. Une position très, très singulière par rapport à la fiction, donc à la fois proche de ce qui se faisait, mais un peu comme Bulwer Lytton, quelque part, ce sont à la fois des auteurs très inscrits dans les genres de leur époque et qui en même temps ont poussé ces genres vers des dimensions assez inédites.
Mais c'est un auteur beaucoup plus important qu'on ne le croit. C'est pour ça que je me suis arrêté un moment sur Rider Haggard. Il y a une certaine forme, évidemment, de mépris aujourd'hui pour, disons, ces figures, pas victoriennes, parce que ça vient après Victoria, mais ou édouardiennes, enfin, qui sont tout de même typiques de ce qu'on appelle l'Angleterre impériale. Donc aujourd'hui, la critique universitaire est plutôt impitoyable par rapport à tous ces gens qui ont glorifié l'Empire. Mais à mon humble avis, pour comprendre l'importance de ces auteurs, je crois qu'il faut un petit peu se débarrasser de l'idéologie pour voir justement tout cet imaginaire qui est tout à fait flamboyant et qui va influencer quantité de gens jusqu'à Lovecraft. Hein. Et le personnage mythique de She, hein, va, comme je le disais tout à l'heure, va créer toute une série de femmes fatales qui vont envahir toute la littérature et l'art en général, d'ailleurs. Donc, je crois que même si Haggard était, un Britannique pur jus, qui travaillait d'ailleurs en Afrique et qui sans doute défendait l'Empire, je crois que c'était un grand écrivain avec une imagination formidable, qui était amoureux de l'Afrique à sa façon. Hein. C'était évidemment, c'était pas l'Afrique réelle, hein. C'était aussi l'Afrique de Rice Burroughs. Hein. Alors la différence, c'est que Haggard connaissait très bien l'Afrique, alors que Edgar Rice Burroughs n'y a jamais mis les pieds. C'est assez extraordinaire de créer le mythe de Tarzan sans avoir mis les pieds en Afrique. Ça, c'est une différence essentielle. Haggard connaissait très bien non seulement la géographie africaine, mais les traditions mythiques également. Il en a beaucoup utilisé, issu des Zoulous. C'était tout de même un esprit très, très érudit. Très, très érudit.
Oui. D'ailleurs, ce qui est magnifique dans Les Mines du roi Salomon, c'est comment on bascule du réalisme. C'est de manière un peu indétectable, en fait. Comment on bascule de l'invraisemblance propre au roman d'aventure vers justement cette terra incognita, donc ignota, donc vers cette sorte de monde perdu. Et au fond, ça construit vraiment de manière très, très précise l'imaginaire. Ce que reprendra d'ailleurs Lovecraft dans Les Montagnes hallucinées, extrême vraisemblance par rapport aux connaissances et au discours social de l'époque, et puis les percées de l'imaginaire.
Plus la terreur, ça c'est la peur de Lovecraft. Il ajoute au thème du monde perdu un sentiment de terreur qui était absent jusque-là.
Oui, c'est ce que vous montrez dans votre ouvrage donc de 2017, Lovecraft, une approche généalogique de l'horreur au sacré, qui est vraiment une, comme le sous-titre l'implique, c'est vraiment cette généalogie qui nous fait remonter à quantité de sources, donc Verne, Edgar Poe, Merritt, etc., et qui montre très bien cette filiation à partir de, donc d'ailleurs, un chapitre consacré spécifiquement aux montagnes de la folie ou aux montagnes hallucinées, selon la première traduction en français. Et c'est, pour l'instant, jusqu'à date, c'est un peu le parachèvement de votre réflexion sur les mondes perdus.
Lovecraft n'est pas vraiment un écrivain de mondes perdus. Son œuvre dépasse de beaucoup la thématique des mondes perdus, même si à un certain moment, bien sûr, il a été nourri par cette ancienne thématique. Lovecraft est un grand un des plus grands écrivains américains, tout simplement.
Oui, et vous montrez bien que finalement, à partir de cette sorte de canevas des civilisations perdues, il en fait quelque chose de tout à fait différent, et c'est cette horreur cosmique ou horreur métaphysique.
Absolument.
Et le continent perdu n'est plus juste le continent quelque part familier qu'on peut imaginer, où on retrouve tout simplement le même sous une autre forme, mais c'est carrément un passé totalement autre. Et vous insistez sur le rapport au sacré, au sens de Rudolf Otto d'ailleurs, contemporain de Lovecraft, et dont les analyses, d'ailleurs, les analyses de Otto sur la terreur et l'horreur dans le sacré sont, je crois, totalement révélatrices pour comprendre ce que fait Lovecraft. D'ailleurs, je me demande si Lovecraft avait lu, parce que, étant donné que c'est un grandissime lecteur omnivore, j'imagine qu'il a quand même pu lire le travail de Rudolf Otto. Mais je pense qu'il a
découvert. C'est possible, oui.
Mais je pense qu'il a découvert, parce que c'est de 1917 et Dagon est strictement...
Oui, c'est 1917, je crois.
Ouais, donc, je pense qu'en fait, c'est vraiment... Tous les deux sont arrivés un peu à la même phénoménologie du sacré, quelque part, le sacré dans sa version...
Oui, oui. Enfin, ceci dit, il y a un côté inconscient aussi de la création.
Oui, bien sûr. Oui, oui. Non, c'est ça. Je pense que c'est ça. Ils se sont, ça a été, ça n'a pas pu influencer en 1917 l'écriture de Lovecraft. Donc, au fond, c'est vraiment deux parcours parallèles qui arrivent.
Il y a quelque chose qui est important pour moi dans un bouquin que vous n'avez pas encore cité et qui va d'ailleurs être réédité dans les mois qui viennent, c'est La Terreur et le Sacré, où je fait une analyse de l'imaginaire nord-américain.
On arrive à cet autre grand volet de votre travail, qui est donc le monde trouvé, disons, c'est l'Amérique. Et dès 1997, vous consacrez donc un ouvrage qui s'appelle « Histoire secrète de l'Amérique ». Et je pense que c'est un peu le socle du livre de 2014, qui lui est au pluriel « Histoire secrète de l'Amérique ». Je me trompe ?
Oui. Il n'y a pas une grosse différence. C'est l'éditeur qui a ajouté le S.
À partir du livre, il y a vraiment une interrogation que vous allez continuer dans d'autres ouvrages sur cet aspect totalement mythique de l'Amérique.
C'est ça. Oui, en fin de compte, ce que j'appelle histoire secrète, c'est histoire mythique. C'est évident que l'historiographie a tendance, disons, à laisser de côté tout ce qu'elle n'arrive pas à expliquer rationnellement. J'ai été nourri, évidemment, pendant tout mon cursus d'ouvrages très sérieux sur l'histoire de l'Amérique. Mais comme j'ai vécu un peu en Amérique, j'ai enseigné là-bas, donc j'ai découvert sur place toute une floraison d'ouvrages que j'avais totalement ignoré avant. Et donc, ça m'a, offert une autre approche de l'Amérique à travers ces mythes. Et je me suis rendu compte que même si l'Amérique est un pays neuf, elle est nourrie de mythes, d'ailleurs, dont beaucoup sont issus d'Europe ou d'ailleurs, hein, parce que les différents peuples qui sont arrivés petit à petit en Amérique du Nord depuis le XVIIe siècle, ils ont amené leur culture, ils ont amené leurs croyances. Hein. Donc, même si l'Américain est une sorte de creuset communautariste, bon, il y a tout de même, à mon avis, des tendances culturelles et religieuses tout à fait marquées qui viennent, par exemple, des Scandinaves, des Allemands, d'autres lieux. Donc, je me suis beaucoup intéressé à l'aspect croyance, à partir non seulement du XVIIe siècle, mais même avant, parce que l'Amérique, en fin de compte, existait avant d'être découverte. Donc, à partir de là, ceux qui ont imaginé l'Amérique, en fin de compte, l'ont peuplé de croyances qui n'ont jamais disparu. C'est ça que, si vous voulez, ça a été mon fil d'Ariane, c'est de montrer qu'en fin de compte, les croyances originelles liées à cet espace gigantesque à l'ouest du monde, eh bien, en fin de compte, n'a jamais pu se dégager de ces mythes traditionnels. C'est-à-dire que l'Amérique est une croyance.
Oui, ça commence dans votre travail et dans les faits, ça commence avec l'imaginaire de Christophe Colomb qui est à la fois marqué
par
un certain millénarisme, par cette sorte de la quête d'une sorte de paradis terrestre, mais en même temps l'angoisse d'une sorte de déchéance de la sauvagerie, etc. Et ce sont des thèmes qui ne vont cesser de revenir dans l'imaginaire américain. D'ailleurs, vous consacrez un autre ouvrage en 2000, donc Frontières barbares, l'espace imaginaire américain de Charles Brockden Brown à Jim Morrison, et qui est vraiment consacré sur ce grand mythe au fond, qui est la wilderness. Wilderness, c'est très curieux parce qu'on n'arrive pas vraiment à le traduire en français avec la force que ça a.
Non, il n'y a pas de traduction. Wilderness n'a aucune traduction en français, mais c'est justement pour ça que je le garde toujours en anglais, de même que l'adjectif wild. Il n'y a pas vraiment de traduction, parce que tout le monde traduit ça par sauvage, mais ça va au-delà. Wild est vraiment tout ce qui échappe à la rationalité. Wild nous emmène toujours du côté du rêve, du cauchemar, du délire, et surtout de ce qui ne peut pas être contrôlé. C'est ça. La nature, au sens américain, le wild, c'est cette terre si spécifique que l'homme blanc ne peut pas contrôler. Donc, à partir de là, évidemment, la vision du territoire, la vision du paysage a conditionné l'imaginaire non seulement des habitants, mais de ses créateurs. Et c'est intéressant de voir justement les répercussions de cet imaginaire de la wilderness sur tous les écrivains qui se sont suivis du 18e jusqu'au 20e, les plus grands comme les plus petits.
Oui, vous partez du grand auteur gothique américain, Charles Brockden Brown, dont les historiens continuent à trouver les filiations, par exemple avec The Shining de Stephen King et son premier...
Ah ben absolument, vous avez raison. Et en effet, ce n'est pas un très très grand styliste, Charles Brockden Brown, mais curieusement, en quatre ouvrages écrits presque en écriture automatique en 3 ans, il arrive à circonscrire pratiquement toutes les grandes tendances de l'imaginaire américain. Ça, c'est tout de même assez extraordinaire. Le conspirationnisme, la maison perdue dans les bois, le puritanisme, la peur de la solitude. Oh, c'est pas formidablement bien écrit, hein, à tel point que moi, je sais que quand j'étais étudiant, je ne savais même pas qu'il existait.
C'est beaucoup les américanistes qui ont réussi à le placer un peu dans le canon, mais il y a un peu l'influence finalement de la première littérature américaine qui est plutôt celle des pamphlets, des sermons.
Mais je ne sais pas pourquoi on n'accepte pas ça. Je veux dire, moi, ce qui m'a énervé quand j'étais étudiant, enfin, je ne m'en suis pas rendu compte à l'époque, mais plus tard, je me suis rendu compte que, en fin de compte, qu'est-ce que c'est que la littérature? Les grands écrivains américains, bon, il faut bien le dire, c'est des écrivains du 19e siècle. Mais qu'est-ce qui se passe entre le 16e et la fin du 18e? Il y a tout de même un blanc qu'il faut tout de même essayer de comprendre. Or, on se rend compte, c'est un peu ce que j'ai essayé de faire dans La Terreur et le Sacré, c'est de voir que la littérature, ce n'est pas simplement du roman, c'est également des témoignages de gens qui se font enlever par les Indiens, ou c'est aussi, évidemment, surtout, je dirais, comme vous le disiez, des textes religieux, des sermons. Plus un sermon est populaire, et plus il est appelé à être publié. Donc, en fin de compte, les premiers best-sellers américains, ce sont que des œuvres, je dirais, soit religieuses, soit marquées par le sensationnalisme. Et là, on est en pleine littérature populaire. C'est assez intéressant de voir que toutes les grandes tendances qui vont apparaître, notamment au 19e siècle, on les trouve déjà chez les grands prédicateurs puritains. Ces gens-là vont marquer l'imagination américaine de manière indélébile.
C'est la grande thèse donc du livre de 2007, La Terreur et le Sacré, la nuit gothique américaine, qui est un très beau titre et un très beau sous-titre, où c'est une plongée un peu dans le territoire des frontières barbares, mais comme vous le dites, plus aux origines donc de cette sorte de psyché américaine, où finalement le gothique C'est pour ça aussi que c'est un gothique assez différent, au fond, de celui de l'Angleterre, qui, lui, est plutôt du côté de la féodalité catholique, etc., etc., et le château, etc. Alors que dans le monde gothique, il y a tout un autre décor, mais aussi un autre champ des possibles. Et vous avez cette très belle phrase dans ce livre: j'ai voulu épouser le regard de ces êtres de jadis, exilés, perdus, mais toujours fascinés. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'incroyable dans cet imaginaire de la wilderness, les immenses espaces de la nature qui sont pleins de menaces et de promesses, et qui donnent donc ce côté à ce que vous appelez la nuit gothique américaine, et où vous étudiez justement des auteurs très très variés. Certains peu connus par les littéraires, comme Crèvecœur, Freneau, donc Alston, Les Voyages de Lewis, mais aussi des auteurs donc très connus comme Jack London. Et ce dialogue, il est tout à fait essentiel pour comprendre les méandres de cette démonologie qui, au fond, fait en sorte que l'Amérique devient gothique à sa manière, non?
Moi, ce que je prétends, ce n'est qu'une hypothèse, c'est moi qui le dis. Moi, je prétends que ce sont les Américains qui ont créé le gothique. C'est-à-dire qu'il y a eu deux grands mouvements dans l'histoire du gothique. Il y a eu le gothique nord-américain qui a suivi, grosso modo, la première colonisation puritaine. Et puis, bien sûr, la deuxième phase la plus connue, celle qui est la plus, comment dire, canonique, hein, aujourd'hui, celle dont vous parliez, c'est-à-dire au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle d'ailleurs, avec beaucoup de femmes d'ailleurs. Je crois qu'il faut bien tout de même trouver un mot. Alors moi j'appelle ça du proto-gothique, mais il y a bien quelque chose qui naît au XVIIe et qui va se concrétiser petit à petit vers le 18e et bien sûr après, je crois c'est ce sentiment de peur. Il n'y a pas de gothique sans peur et il n'y a pas de gothique sans décor. Le décor, c'est le décor qui crée la peur. Ce premier décor, ce proto-décor, c'est celui de la wilderness. Je crois que ce décor va marquer à jamais l'imaginaire américain et en le plaçant toujours dans une sorte de situation d'être assiégé. La fièvre obsidionale, c'est-à-dire la peur d'être assiégé, c'est une peur typiquement américaine qui remonte au XVIIe siècle. Donc le seul fait de mettre des barrières autour d'un village, c'est les gated communities d'aujourd'hui. Le sentiment d'insécurité, la peur de l'autre, la peur des démons et des Indiens, d'ailleurs à l'époque c'est la même chose, ça va hanter toute l'imagination américaine. Et là où ça devient très compliqué, j'arrêterai ma démonstration là, c'est que c'est vrai qu'il n'y a pas de littérature au sens classique du terme avant Charles Brockden Brown. Mais qu'est-ce qu'il va faire, Charles Brockden Brown? Il va créer une forme de fiction typiquement américaine. Alors que jusque-là, les livres qui sont publiés aux États-Unis sont des livres plutôt anglais ou des traductions. Et là, il va dire, ça commence à bien faire, pourquoi il n'y aurait pas de littérature authentiquement américaine? Et qu'est-ce qu'il va faire? Un truc invraisemblable, il va s'inspirer du gothique anglais pour trouver des équivalents dans la société américaine. Et il va créer le roman américain, justement par cette étrange topologie où il s'agira de trouver des équivalents de personnages ou de décors. Comme il n'y a pas évidemment de manoir ou d'abbaye hantée, bah, ça va être la nature sauvage qui va la remplacer. Et puis, bien sûr, les personnages malfaisants, on en trouvera aussi. Donc, d'une certaine façon, c'est l'esprit même du gothique européen qui va télescoper le gothique américain et qui va, en fin de compte, bah, petit à petit, forger un authentique imaginaire américain qui mettra tout de même assez longtemps à s'exprimer d'une manière claire. Ensuite, il y a Hawthorne, et puis, etc., Jack London, etc. Mais on ne peut pas comprendre cette floraison gothique sans procédé historiquement à partir du XVIIe. Voilà ma modeste démonstration.
Et c'est fascinant. Et la même année, vous avez un autre ouvrage qui revient sur le mythe du Nouveau Monde. C'est donc Le Nouveau Monde, autopsie d'un mythe, où là, on voit peut-être plus la sorte de... On touche plus au rêve du paradis qui n'a pas... Le paradis qui s'est transformé quelque part en enfer. Donc, c'est deux livres un peu complémentaires.
C'est ça. C'est le mythe essentiel de l'Amérique, hein. Le mythe du paradis terrestre. Le drame essentiel de l'Amérique, c'est d'avoir hérité d'un paradis et de l'avoir perdu. À partir de là, vous avez à peu près toutes les grandes œuvres américaines en littérature, en art et en cinéma.
L'île d'Ariane, de l'idylle entre Smith et Pocahontas, à travers notamment le grand film Le Nouveau Monde de Terrence Malick. Et là, c'est vraiment cette idée tragique aussi par rapport aux Amérindiens et la destruction, au fond, le rêve qui est détruit aussi par la destruction de l'autre et l'impossibilité à...
Mais oui, parce que vous avez raison. On oublie toujours que Jamestown, c'est la première colonie américaine, première tentative de, disons, d'établissement, comme on disait à l'époque, « settlement ». Et ça va très très mal se passer. Je veux dire, il y aura des moments forts avec le mythe de Pocahontas, d'ailleurs complètement créé et détourné par les Américains. Malheureusement, dès le départ, les choses se passent très très mal entre les soldats et les Amérindiens. Donc, à partir de là, avant même l'irruption des colons et des pionniers, déjà, certains diraient que les carottes étaient cuites, hein, pour parler vulgairement, et que déjà les choses se profilaient de manière terrible. Donc, cette tragédie initiale de Jamestown pratiquement jette son ombre sur toute l'histoire américaine dès le départ. Hein, après, ça ne pourra pas bien se passer. L'occupation anglaise, d'une certaine façon, c'est l'anticipation de l'occupation des terres à partir du XVIIe siècle.
Tout à fait, et c'est ce que le film de Malick est une réflexion aussi sur tout ce poids-là que porte l'Amérique depuis. Et vous avez aussi une incursion très intéressante du rêve américain à travers les yeux de Jules Verne en 2005, Jules Verne face au rêve américain, avec cette proposition qui peut être un peu surprenante, l'Amérique comme fil d'Ariane, indispensable pour appréhender dans sa globalité la vision vernienne. Ce qui est quand même assez surprenant parce que c'est vrai qu'on connaît quelques grandes œuvres de Verne qui se passent aux États-Unis, mais cette centralité que vous démontrez est en soi très intéressante.
En fin de compte, la vision de Jules Verne, je veux dire, est parfaitement prophétique. Bon, c'est un livre que j'avais déjà commencé à écrire il y a plusieurs années, mais... Après avoir relu tout cela, après avoir complété certaines lectures, c'est extraordinaire. Je veux dire, toutes les turpitudes de la politique domestique et étrangère des États-Unis, elle est déjà inscrite chez Jules Verne, notamment chez ses œuvres ultimes, celles qui précèdent, celles qui datent de la fin du XIXe siècle. Sans dessus-dessous, des œuvres comme ça qui sont moins connues, mais qui sont parfaitement prophétiques. C'est-à-dire qu'à travers la désillusion graduelle de Jules Verne vis-à-vis de l'Amérique et des Américains, qu'il adore, on a petit à petit ce pressentiment d'un pays qui fait n'importe quoi. Et c'est assez étonnant de trouver ça chez un amoureux des Américains.
On peut comprendre tout ce qui unissait Verne avec son enthousiasme pour cette sorte de dynamisme industriel, etc., de l'Amérique. Et au fond, ça aura accompagné sa propre évolution littéraire, intellectuelle, vers une vision beaucoup plus désenchantée et un peu noire même de la
modernité. C'est ça, désenchantée étant le mot qui convient, en effet. Vous avez raison. Et ceux qui connaissent Jules Verne, peut-être ignore ses dernières œuvres que je voudrais signaler. Hein. Il faut lire L'île à hélice, Le testament d'un excentrique et Sans dessus dessous. Voilà. Sans dessus dessous est un chef-d'œuvre. Une nouvelle qui est posthume, qui est parue après la mort de Jules Verne, qui est L'éternel Adam. Mais c'est très intéressant, l'éternel Adam. C'est la fin du monde. Le monde s'affaisse dans les eaux et l'Atlantide réémerge. Et ça se termine, en fin de compte, par la proclamation d'un éternel retour qui contredit complètement la vision positiviste et progressiste de Jules Verne. Donc, c'est assez passionnant d'étudier cette progression qui va, en fin de compte, comme vous le disiez, de l'espoir au désenchantement.
Et ça rejoint, au fond, un autre livre de 2010, « Le retour des morts, imaginaire, science, verticalité », où, au fond, il est question, à part toutes les variantes de ce retour des morts, donc les vampires, mais aussi les fantômes, les spectres, les zombies, les momies. On oublie souvent que toutes ces créatures partagent ce même socle, même si ça a créé des sous-genres assez différents. Mais au fond, vous ne faites pas une étude thématique de ces figures strictement. Vous vous intéressez, au fond, à quelque chose de beaucoup plus profond, dans un sens, qui est non seulement leur lien, mais aussi leur lien justement au temps, au monde perdu, à l'archéologie fantastique, l'idée de cette verticalité que vous évoquez, donc spatio-temporelle, qui est une sorte de voyage quelque part, un retour sur les idées jungiennes, etc., qui ne sont pas invoquées à la manière d'une grille explicative du tout, mais cette idée d'une sorte de profondeur, de descente dans la profondeur de la psyché, psychologie des profondeurs.
Un double constat sociologique et anthropologique, c'est qu'on évacue de plus en plus la mort pour des raisons diverses. Et j'ai essayé de montrer que plus on évacuait la mort, plus la mort revenait, ne serait-ce que dans le domaine de l'imagination. Donc, j'ai pris tout un tas d'exemples, le plus souvent littéraires, mais ça peut être aussi cinématographique ou autre, pour montrer qu'en fin de compte, depuis bientôt deux siècles, personne ne peut accepter la mort, et donc on combat la mort par l'imaginaire. Plus personne aujourd'hui, parce que c'est un constat qui continue et qui s'affirme de plus en plus par le triomphe du gothique. J'ouvre une parenthèse, c'est tout d'un invraisemblable, ce mouvement qui a plusieurs siècles, hein, et qui, en fin de compte, continue de s'affirmer aujourd'hui. On s'accroche au gothique qui, en fin de compte, est assez révolutionnaire parce qu'il est anti-progressiste, totalement. Et les jeunes générations, en fin de compte, se reconnaissent tout à fait dans ces mouvements. Donc, voilà, je ferme la parenthèse. Je me suis intéressé sur la pérennité, tout de même, d'une forme de fiction dont on ne voit pas la fin, et qui ne cesse de dire que la mort n'existe pas. Le zombie, le vampire, enfin toutes ces créatures fantasmatiques, en fin de compte, ne cessent de nous dire, en fin de compte, de nous porter toujours le même message, en fin de compte, qui est totalement antiprogressiste, et qui n'est pas vraiment religieux, mais méta-religieux d'une certaine façon. Plus on met les morts à la porte, plus ils reviennent par la fenêtre.
Oui, absolument. Et d'ailleurs, une des parties aussi de l'ouvrage est consacrée à ce paradoxe que c'est la science moderne qui, vous dites, en verticalisant l'imaginaire, a, au fond, transformé le fantastique. Il ne l'a pas du tout tué ou substitué. Au fond, ça a créé des nouveaux fantastiques et où on retrouve évidemment toutes les fantasmagories sur les Atlantides, mais aussi sur les dinosaures, les créatures antédiluviennes qui reviennent aussi, etc. Donc, c'est vraiment un ouvrage dans un sens très, très large sur cette sorte de révolution des esprits donc, qui a marqué un nouveau régime de l'imaginaire.
La science également est créatrice de mythes. C'est-à-dire que les nouvelles sciences de la deuxième moitié du 19e siècle, paléontologie, géologie, archéologie, en fin de compte, sont des sciences de la verticalité et sont liées à ce qu'on enterre. Et en fin de compte, ce qu'on enterre, on le découvre sous sa forme rationnelle et sous sa forme imaginaire, en fin de compte, c'est les morts au fond de la tombe qui reviennent pour nous dire qu'ils ne sont pas morts. Donc, j'ai trouvé ça tout de même assez cocasse, que c'est la science qui, en fin de compte, atteste le retour des morts.
Et d'ailleurs, toute l'histoire du spiritisme au XIXe siècle, oui. Avec tout l'intérêt parascientifique que ça a provoqué, etc., marque bien cette, à la fois une rupture anthropologique et en même temps la volonté presque désespérée de renouer avec une surnature qui, du coup, faisait problème parce que la science l'avait un peu mise à mal, en tout cas le système de croyances chrétien traditionnel. Et c'est vrai qu'on est tout à fait pris là-dedans. Et comme vous le dites, les séries télé, etc., n'arrêtent pas de revenir sur ces figures. Et les gens consomment de manière presque maniaque ces mêmes figures. Et on pourrait dire que plus récemment, donc, il y a comme un troisième volet qui est relié à tout ce qu'on a dit jusqu'ici, mais qui s'affirme avec notamment votre livre avec Philippe Marlin sur le polar ésotérique, source, thème, interprétation, en 2016. Ensuite, peut-être avec le sacre du noir, imaginaire gothique, imaginaire maçonnique, en 2019. Et plus récemment, en 2020, le Hellfire Club, une société secrète à la tête de l'Angleterre, cette fois-ci, et non pas des États-Unis. Et on dirait que là, votre recherche vous a amené inévitablement à traiter aussi donc ces questions des rapports, des imaginaires populaires et de cet autre versant de l'imaginaire populaire qu'est le pseudo-ésotérisme ou la mythologie qui s'est créée autour de l'ésotérique.
Pour moi, le grand fil d'Ariane derrière tout ça, c'est l'idée du retour. Je suis obsédé, en fin de compte, par l'idée du retour. Tout fait retour dans l'imagination. Et j'aurais tendance à dire, maintenant que je suis libéré des contraintes académiques, que tout fait retour d'une manière générale. C'est pour ça que j'ai été nourri par la pensée de quelqu'un dont on n'a pas encore cité, mais qui a joué un grand rôle dans ma vie, qui est le philosophe et mythologue Jean-Charles Pichon, donc, qui a défini une sorte d'histoire cyclique de l'humanité à travers ses créations, ses croyances. Donc ça va... même si j'en parle peu dans mes livres, ça a beaucoup déterminé le sens de mes recherches. Et je me suis rendu compte qu'en fin de compte, tout fait retour sans arrêt. Quand je m'aperçois que donc, toute l'œuvre progressiste de Jules Verne s'achève par l'éternel retour, ça l'interpelle tout de même. J'ai essayé de montrer que Lovecraft, contrairement à ceux qui le mettent dans la rubrique science-fiction et matérialisme, est un auteur qui, en fin de compte, est totalement imbibé de croyances mythologiques. En fin de compte, rien n'échappe, si on a du talent, hein, rien n'échappe vraiment à cette idée du retour. Et même en sociologie, en anthropologie, tout ça fait retour. Le retour du roi Arthur, le retour du dragon, le retour de la fantaisie, le retour de la chevalerie. C'est assez étonnant de voir qu'en fin de compte, rien ne meurt vraiment. Je me suis intéressé aussi, c'est vrai que c'est un peu anecdotique, mais à l'histoire du western. Et le western est crépusculaire dès le départ et en fin de compte ne s'arrête pas. C'est tout de même... en fin de compte, rien n'échappe du retour. Et même dans l'imagination, dans la création artistique, la mort n'existe pas. Rien ne disparaît. C'est plutôt encourageant, d'ailleurs. Un auteur disparu peut très bien réapparaître. Une idée qu'on croyait morte peut très bien réapparaître. Sans doute, aujourd'hui, on vit une période un petit peu difficile. Les gens sont peut-être perdus, justement, parce qu'ils voient plein d'idéologies qui semblaient jusque-là totalement mortes, qui font retour. Pour le meilleur ou pour le pire. Ça déstabilise cette idée du retour et puis en même temps, je trouve que c'est assez encourageant pour l'avenir de penser que, en fin de compte, rien ne meurt.
Oui, et d'ailleurs, l'ésotérisme est beaucoup nourri de ces retours continuels et le polar ésotérique, qui n'avait pas été vraiment étudié avant vous, en complément d'ailleurs a aussi un colloque à Cerisy qui a été publié sur les détectives de l'étrange, même si ce n'est pas exactement la même chose. Mais le lien entre ce roman policier et ces sortes d'énigmes, de révélations, de secrets occultes, etc., elle est elle-même nourrie du retour systématique. Imaginons évidemment avec Dan Brown cette idée de la survie de la lignée de Jésus à travers les siècles et donc le retour de figures de toutes sortes, parce que dans cette généalogie, que d'ailleurs Dan Brown a repris un livre de pseudo-ésotérique, The Holy Grail and the Holy Blood, et il a d'ailleurs eu un procès pour cela, c'est l'aspect sur lequel…
L'énigme sacrée, oui.
Oui, exact. Et au fond, là aussi, on voit vraiment le retour de tout, puisque dans cette image de la survie mérovingien, tout à coup, les gens se sont mis à s'intéresser à des figures qu'on croyait tout à fait oubliées et qui reprennent une immense actualité au tournant du millénaire, et ça s'est refait pour d'autres phénomènes de la sorte. Dans Le Sacre du Noir, par contre, on revient un peu aux origines, et ce qui est très intéressant, c'est que vous mettez en parallèle la naissance de l'imaginaire gothique au XVIIIe et l'imaginaire de la franc-maçonnerie. Et ça, c'est quelque chose qui avait été parfois signalé, mais qui n'avait jamais, à ma connaissance, été étudié de front, alors que c'est quelque chose de très intéressant de voir qu'en même temps, il y a cette sorte de formation assez singulière qu'est la franc-maçonnerie, réseau social, mais aussi une certaine idéologie, une certaine forme de syncrétisme imaginaire, etc., et aussi l'imaginaire donc des premiers romans gothiques.
Grand plaisir à faire ce travail qui me semblait complètement dingue, il faut bien le dire au départ. C'est la première fois que je faisais une incursion dans le domaine purement rituelique, ritualiste, ésotérique. Mais ce qui m'avait mis la puce à l'oreille, c'est tout de même le décor gothique. On en revient toujours au décor, au rituel, et puis à la notion de peur. Peur sacrée, la peur en tant que phénomène nécessaire pour l'initiation. Et ça, j'avais déjà trouvé ça dans le gothique. Et il suffisait tout simplement de faire un parallèle entre certaines œuvres du gothique et certains rituels de la franc-maçonnerie pour trouver des correspondances. Mais derrière tout ça, il y a une fois encore ce constat que lorsqu'il y a un imaginaire, ce que les Allemands appellent le Zeitgeist, hein, l'esprit du temps qui souffle, en fin de compte, rien n'est vraiment préservé par cet imaginaire. C'est-à-dire, cet imaginaire qui souffle comme un vent, qui est bon ou mauvais, eh bien, en fin de compte, il secoue à peu près tous les secteurs de la société, aussi bien la fiction, la croyance, que des choses parfaitement matérielles quelquefois. Donc, en fin de compte, je crois que les spécialistes du gothique et les spécialistes de la franc-maçonnerie ne vont pas être très contents de voir qu'on peut se livrer à une analyse comparative. Mais pourtant, j'espère qu'il y aura d'autres essais.
Il y a justement le domaine très intéressant du roman complotiste gothique qui a été plus caractérisé en Allemagne, où ça a donné lieu à un véritable sous-genre, mais qui a aussi fait partie du gothique anglais, avec notamment Shelley et l'imaginaire des Rose-Croix, etc. Donc, curieusement aussi, le gothique a vraiment s'est approprié la figure des sociétés secrètes. Et au fond, là aussi, il y a une contagion, puisque cet imaginaire des complots a nourri les livres de Baruel.
Il y a de multiples passerelles, vous en citiez quelques-unes. Je pense en effet que l'idée de la conspiration est assez intéressante, d'autant plus que le complotisme est dans l'air du temps actuel. Au lieu de porter des jugements de valeur sur ce qui est bien et ce qui est mal, on ferait peut-être mieux d'étudier un peu ce processus qui n'est pas nouveau. Il y a des courants souterrains comme ça. Ces courants souterrains peuvent quelquefois déboucher sur des best-sellers. Vous citiez Dan Brown. Tout fait retour. Et un exemple entre mille, c'est, je vous parlais de la paléontologie, c'est la dinomania.
Oui, absolument.
Je veux dire, c'est assez étonnant. Ben oui, parce qu'en fin de compte, quand on a sorti du sol au XIXe siècle ces gigantesques ossements et qu'on a reconstitué donc ces dragons d'antan, eh bien, certains n'ont pas pu s'empêcher de les voir revivre et bouger. Et donc, déjà, tout ça, tout ce côté qui est purement scientifique, en fin de compte, va déboucher sur un imaginaire flamboyant, celui du cinéma. Il y a déjà Spielberg derrière Owen qui va trouver ce nom incroyable, dinosaure, hein, où on trouve dans le lézard terrible. Oui. C'est-à-dire que ce sont les scientifiques déjà qui vont orienter la paléontologie vers l'imaginaire terrifiant. C'est assez extraordinaire, ça.
Oui, la réinvention du monstre, du dragon. Et puis, votre dernier livre en date, si je ne me trompe, qui est justement dans la lignée de votre enquête sur l'imaginaire gothique et l'imaginaire maçonnique, qui est, lui, plus une étude du cas, ce qui a été, au fond, assez rare dans votre parcours, et ce qui est consacré au Hellfire Club, qui est donc cette société secrète assez mythique que vous interrogez avec les outils, justement, du comparatiste et qui s'intéresse à essayer de cerner, au fond, qu'est-ce que ça a été.
Je me suis amusé à faire ce livre qui est l'histoire d'une société secrète au milieu du XVIIIe siècle, assez sulfureuse, qui finit par accéder au pouvoir par l'intermédiaire de quelques ministres, c'est assez important. Après avoir lu à peu près tous les ouvrages possibles et imaginables sur le sujet, je me suis aperçu qu'il n'existait strictement rien en français. Donc, j'ai dit, bon, je vais faire ma petite enquête de mon côté, et puis je vais combler mes lacunes d'historien par mon imagination et mes connaissances de la mythologie. Donc, j'ai essayé de bâtir un squelette comme un paléontologique pour recréer, en fin de compte, une société avec des hommes tout à fait intéressants qui sont typiques du temps.
Très, très disparates, les personnages qui ont été reliés.
Complètement, complètement. Mais disparates, mais ce sont des créateurs. Ce sont des gens qui s'intéressent tous à l'architecture, à l'art en général, à la peinture, à la sculpture. Ce sont tous des gens qui s'intéressent à l'ésotérisme. Dashwood, donc, qui est à l'origine de cette société, va bâtir un château, racheter une abbaye, etc., et qui va créer une sorte de petit paradis pour des petits démons lubriques.
Il y a un côté sadien, il y a un côté de...
Ah, tout à fait, oui. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on ne les prend pas trop au sérieux. C'est-à-dire, il y avait un côté, disons, de sexualité débridée, etc. Mais j'ai essayé de montrer qu'en fin de compte... malgré ces écarts, disons, il y avait tout de même la volonté de créer quelque chose d'alternatif, de créer un espace de beauté, de croyance. Ils font sans doute l'erreur de réhabiliter, disons, des vieilles croyances antiques qui n'avaient pas grand-chance de ressusciter. Mais bon, c'était assez intéressant de voir que ça a marché tout de même 30 ou 40 ans avec des personnages hauts en couleur comme le chevalier Déon qui passe par là, Benjamin Franklin,
oui.
Et que l'histoire des États-Unis passe à un moment par justement ces chambres à coucher un peu bizarres. Donc ça m'a amusé de faire ça.
C'est extraordinaire. Et là, présentement, donc, est-ce que vous êtes en train de, est-ce que vous avez un chantier en cours?
Pour l'instant, j'essaye de rééditer donc certaines choses. Là, bientôt, La Terreur et le Sacré va être réédité avec un chapitre supplémentaire sur Lovecraft. Peut-être je vais faire un dictionnaire du monde perdu de A à Z.
Magnifique. Voilà. Bon, c'est le retour aussi dans votre retour au retour du monde perdu. Donc, merci beaucoup, Laurie Guillemot. J'espère que donc, nos auditeurs et auditrices auront le goût d'entrer dans cet univers de recherche à la fois extrêmement cohérent et à la fois d'une grande prolifération et d'une grande richesse. Donc merci encore, merci à tous ceux et celles qui nous ont écoutés et à bientôt pour une autre émission.